Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Remarquez bien, c'est là la première fin de la prière. Dieu est Tout-Puissant et le péché offense Dieu dans sa majesté, dans sa gloire. Donc si on veut retirer Tout-Puissant, on diminue Dieu. Oui, bon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours vierge. Alors on va se dire, comment ça se fait que je confesse mes péchés à Dieu, ça c'est normal. Mais à la Vierge Marie, elle n'est pas offensée, elle n'est pas Dieu. À Saint Jean-Baptiste, quand même. Je veux bien, Hérode l'a un peu l'a offensé, lui a coupé la tête, mais c'est quand même Hérode qui pourrait dire ce confiteor là. Mais moi, j'ai rien fait à Saint Jean-Baptiste. Et confiteor, ça veut pas dire je regrette mes péchés. Comment dire vis-à-vis de vous. C'est je dis mes péchés. Je dis que j'ai péché. Je regrette publiquement mes fautes devant Dieu, devant la Vierge Marie, devant Saint Jean-Baptiste. Donc c'est pas, voyez-vous, ça respecte la théologie. Les pharisiens, ils sont là. Comment il peut pardonner les péchés, Jésus? En effet, personne ne peut pardonner les péchés, sauf Dieu. Et le prêtre vous pardonne au nom de Dieu. Et ce qui fait que lorsque vous entrez au confessionnal et que vous dites « Pardonnez-moi parce que j'ai péché », je déchire mes vêtements comme un juif de l'Ancien Testament. Qui suis-je pour que je puisse vous pardonner les péchés? Je ne suis pas Dieu. Et là, la personne dit « Mais vous êtes quand même son représentant. » Certes, mais c'est au nom de Dieu. Donc, bénissez-moi, mon Père. Que je demande à Dieu qu'il vous donne des grâces, qu'il vous bénisse pour que vous soyez sincère dans votre confession, mais je peux pas vous pardonner. Ou alors, dites-moi, pardonnez-moi au nom de Dieu. Et pardonnez-moi au nom de Dieu, mon Père, parce que j'ai péché. Mais pardonnez-moi parce que j'ai péché. Je ne suis pas Dieu. Comment ça se fait que je suis qu'un homme, une créature? Donc le pauvre, là, vous voyez, il est là, en train de pleurer, des déchirés dans le confessionnal, vous dites, qu'est-ce que j'ai pas fait? Un blasphème, tout ça, enfin voilà. Donc, si vous voulez éviter ce spectacle horrible, n'est-ce pas, eh bien, vous dites simplement, bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché, ou alors, pardonnez-moi au nom de Dieu, mon Père, parce que j'ai péché. Je le dis parce que, il y a un pénitent sur deux qui dit, pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Et voilà, alors je dis rien, je souffre en silence, ou alors je me dis je participe à la nature divine, c'est ça. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours vierge, à Saint-Michel Archange, qui sera présent à mon jugement particulier quand même, donc ça peut toujours servir de le saluer à ce moment-là, à Saint-Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul, à tous les saints. Donc toute la cour céleste, je dis, j'ai péché. Et à vous mes frères, parce qu'ils sont là, et je le dis publiquement, parce que j'ai beaucoup péché. Et là, on dit en pensée, en parole et par action. On ne dit pas par omission, ça a été ajouté de manière catéchétique. Mais si vous voulez, l'omission c'est quand même un acte. C'est d'en opérer. C'est pas que ça manque ici. C'est parce que on a rajouté théologiquement, ça dit tiens, c'est joli de rajouter aussi par omission. Mais si vous voulez, déjà c'est pas mal. En pensée, ça peut être justement l'omission. En pensée, ça peut être je devrais dire cela et je ne le dis pas. Vous voyez, l'omission peut être comprise dans ce qui existe déjà, mais on peut l'ajouter. En pensée. En parole et par action. Donc, vous voyez, la tête, la bouche et les mains. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. C'est quand même passé dans le langage courant. Même les journalistes disent, il a fait son mea culpa. Voilà. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours vierge. Là, on prie la Vierge Marie. Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, Saint Apôtre Pierre et Paul, tous les saints, et vous, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, pour qu'il me pardonne mes péchés. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Et ici, ils ont squeezé, ils ont... Alors là, vous voyez, vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne. Oui, c'est bon, pardon. On vous voit le prêtre, c'est très gentil. Voilà. C'est que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés. Il y a une faute de frappe, voilà, c'est ça. Tous vos péchés vous conduisent à la vie éternelle. Amen. Et là, normalement, vous dites le Confiteor. Et pendant ce temps-là, la Scola continue à chanter. Elle en est au Kyrie. Donc vous, le Confiteor, sous le nez. Voilà. Mais ceux qui servent la messe, ils disent « Confiteor de Minipotenti ». Alors, ceux qui sont très fervents se plient en deux et touchent le front au sol. Normalement, c'est une inclination maxima, ça veut dire les épaules et le haut du dos. Voilà. Mais la moitié du tronc reste... normalement, on ne va pas jusqu'au bassin. Je dis ça comme ça pour voilà. Mais par humilité, il y en a qui se mettent le comment dire, s'inclinent totalement. Mais vous voyez donc les servants de messe s'incliner. Je confesse à Dieu. Et le prêtre, lui, s'était totalement cassé en deux, par contre, hein, puisqu'il est debout. Et là, le prêtre va vous donner une bénédiction que les fidèles n'avaient pas pu donner. Le prêtre vous dit la même chose que vous, que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, mais à lui-même il fait cette bénédiction et à tous. Vous avez vestri et là c'est nostri, c'est nous tous. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de nos péchés. Le pardon, l'absolution, c'est plus que le pardon, c'est par rapport à la réparation, si vous voulez, de nos fautes. Ça absout, si vous voulez, le péché dans sa malice. Le pardon, l'absolution, ce sont des synonymes. Et la rémission de nos péchés, c'est plus par rapport à la peine due au péché, le rachat. Mais c'est trois synonymes, donc c'est une insistance. Ensuite, le prêtre va vers l'autel et il dit « Ô Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Deus tu conversus vivificabis nos. » La vraie traduction, c'est « Dieu, quand vous tournez vers nous, vous nous vivifierez. Vous nous donnerez la vie. » Et plebs toi les tabiturinte, et votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde, encore une dernière fois, et accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous et aveugle votre esprit. Et là, le prêtre monte, et là, il prie seul. Mais, voyez-vous, il prie seul, mais il prie pour tous, parce que là, le latin est très simple. Au singulier, c'est « tu », et au pluriel, c'est « vous ». Donc, dès que c'est au singulier, c'est le prêtre qui prie pour lui. Et dès que c'est au pluriel, il prie pour lui et pour tout le monde. Et là, pour nous tous, il dit « Enlevez nos fautes, Seigneur, afin que nous puissions pénétrer jusqu'au sein des saints avec une âme pure. » Et bon, ça intéresse plus particulièrement le prêtre qui monte vers l'autel. Sancta Sanctorum, référence à l'Ancien Testament et au Temple de Jérusalem, puisqu'on va offrir l'agneau de Dieu. Nous vous prions, Seigneur, par les mérites de vos saints, dont nous conservons ici les reliques, et de tous vos saints, de daigner me pardonner tous mes péchés. Alors là, omnia peccata mea. Là, le prêtre parle pour lui. Parce qu'il va s'approcher quand même du Dieu vivant. Imaginez qu'un prêtre malicieux et mauvais comme une teigne célèbre la messe avec mépris et qu'au moment de la consécration, avant la consécration, Dieu le tue. voyez, parce qu'il s'approche des réalités saintes avec méchanceté. Mais je peux vous assurer que ça jetterait un froid dans l'assistance. Mais le Seigneur, en général, laisse vivants les prêtres, même méchants, qui célèbrent la messe. Parce que quand un prêtre célèbre la messe, c'est le Christ qui célèbre la messe et le prêtre prête son humanité. C'est toujours le Christ qui célèbre la messe. Hein. Mais en soi, c'est un prêtre qui célèbre la messe en état de péché mortel, pêche. Oui. Sauf s'il est obligé de célébrer la messe et qu'il ne peut pas faire autrement. Et, par exemple, il a étranglé son vicaire de rage qu'il avait exaspéré le matin même. Il met le corps de son vicaire dans le clocher, qui est très aéré, on verra avec le temps, tout ça. Il est très haut, il a 25 mètres de haut, on dit qu'on est à Saint-Pierre-de-Chaillot. Personne ne s'aperçoit, il dit « Oh, je ne l'ai pas vu ce matin, il ne s'est pas levé, enfin je ne sais pas ». Mais il est obligé de célébrer la messe. Et il est pris d'un réel regret. C'était un coup de folie, un coup de colère inimaginable. Là, il pleure un peu dans la sacristie. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ma vie est brisée, on va découvrir le corps en plus. Mais il doit célébrer la messe sans dire à ses fidèles, excusez-moi, j'ai tué mon vicaire ce matin, ce dimanche matin, je ne célébrerai pas la messe, je suis en état de péché mortel. Et donc un prêtre qui a fait une faute, eh bien, peut célébrer la messe sans péché s'il y est obligé pour ne pas faire scandale. Oui. Tout cela pour vous dire que le début de la messe, ça concerne le péché et le regret du péché. Et normalement, dans un autel, il y a des reliques d'un martyr et d'autres saints si l'on veut. Mais toujours des reliques de martyrs. Parce que le Christ est mort. Et que l'autel est le tombeau du Christ, où son corps est déposé et d'où il ressuscite. Donc dans un autel, par coutume, il y avait toujours des reliques. Et cette coutume vient aussi du fait qu'on a célébré la messe près du corps des martyrs dans les catacombes et ailleurs, et que près du lieu où était enterré un martyr, car la plupart des saints étaient des martyrs au début de l'Église, eh bien, on célébrait la messe. Et cette coutume, eh bien, elle a été faite, en fait, petit morceau d'os du martyr qu'on mettait dans l'autel. Et si l'autel était en bois, on mettait une pierre qui était enchâssée dans le bois où il y avait les reliques. On appelle d'ailleurs l'endroit où les reliques se trouvent dans un autel en pierre ou un autel en bois le caveau. Oui. Parce que c'est quand même une sépulture, c'est le corps d'un mort. Même si ça fait 2 mm sur 2 mm, une relique d'os est demandée par l'Église. Actuellement c'est facultatif, mais normalement on a une relique. Et chez les orientaux, l'autel est souvent en bois, et il y a un linge où on déposera l'hostie, donc on appelle un corporal, le corps du Christ. Et dans ce linge, on a mis des reliques qu'on a enfermées avec un double tissu pour inclure les reliques dans le linge. Ce qu'on appelle un corporal grec. Les orientaux, ils ne le mettent pas dans la pierre, ils le mettent dans le linge, dans le corporal. Enlevez, nous vous prions Seigneur par les mérites de vos saints dont nous conservons ici les reliques. Alors, faire cette prière alors qu'il n'y a pas de reliques dans l'autel, ça fait un peu bête. Voilà. D'où, pour moi, à chaque fois que je suis en déplacement ou autre, j'ai toujours un corporal grec avec des reliques de martyrs et de saints et je le dépose sous les nappes. De manière habituelle, il devait y avoir 3 nappes au nom de la Sainte Trinité, mais aussi pour que si le précieux sang est renversé, les nappes puissent boire le précieux sang. Ici, dans une messe chantée, le prêtre bénit l'encens. Hein. Sois béni par celui en l'honneur de qui tu vas brûler. C'est une prière amusante parce qu'on parle à la matière. Hein, on parle à l'encens. On dit, sois béni par celui en l'honneur duquel tu vas brûler. C'est comme lorsqu'on bénit une cloche, on lui parle. Oui. Ben, les saints modernes, c'est encore plus simple. Mais les saints anciens, quand ça a été reconnu de siècle en siècle, les corps conservés ou les morceaux d'os conservés, eh bien, normalement, un évêque doit être présent ou alors un vicaire général. On ouvre le tombeau ou le reliquaire et avec un petit couteau, un petit scalpel, on fait sauter un éclat d'os ou on racle. Et on l'inclut dans de la résine, par exemple, pour que ça ne se disperse pas, si c'est de la poudre d'os, pour avoir un morceau du corps. Et dans la foi catholique, et la résurrection des corps, le nouveau corps qu'on aura à la résurrection aura en partie des restes de notre premier corps. Et les ossements, principalement. Comme la chair et le sang, le bon Dieu ne va pas ressusciter les globules desséchés ou détruits ou absorbés. Mais par contre, si vous voulez, quand il y a des os, Dieu va réutiliser le calcium de ces os-là. Alors vous allez me dire, quelqu'un qui est mort dans l'océan et dont les os ont été dispersés en sels minéraux sur 1000 kilomètres, eh bien... Je ne peux pas vous répondre, mais en poussant la logique, oui, Dieu va récupérer les atomes qui ont fait partie d'un corps humain. Ézéchiel, lorsqu'il voit la résurrection des morts, il voit une poussière tournoyer dans la vallée de Josaphat, et les squelettes se former, à partir de la poussière qui tourne. Ensuite, quand les squelettes sont devant lui, des milliards de squelettes, des millions de squelettes qu'il voit, la chair se reforme sur les os et la peau. Et ensuite, les âmes reviennent dans les corps. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des juifs qui se font enterrer dans la vallée de Josaphat pour que leur corps soit déjà présent. Mais le jugement dernier aura lieu en Israël, à la vallée de Josaphat. Alors vous allez me dire, ça peut pas contenir 3 milliards de personnes. Ben si, c'est une grande plaine. Ça peut contenir plusieurs milliards de personnes debout. Mais c'est mystique, mais c'est réel en même temps. Oui.
Ça veut dire que l'incinération, c'est...
L'incinération est un manque de respect pour notre corps. Et donc l'Église le tolère uniquement si vous avez des problèmes financiers, actuellement.
C'est pas si vrai que ça.
Comment ?
C'est pas si vrai que ça.
Ils sont malins quand même. Maintenant, c'est aussi cher que l'ensevelissement. Et donc finalement, peut-être que l'ensevelissement va reprendre un peu parce que ils sont dit mais mince, c'est vrai que ça coûte moins cher de cramer la personne. Bon, tout ce qui a pas brûlé, on l'a broyé, mais s'il y a des dents, des machins comme ça, on les jette. Hein, on dit pas à la famille. Hein. On leur donne le pot. Hein, ils disent c'est de la poudre. Des scampettes ? Non. Et donc, mais tout ce qui a pas été broyé, parce que bon. Ce qui a été brûlé, il faut plusieurs heures pour brûler. Et donc, si la famille veut assister à la crémation, bon, on met pas une vitre, hein, parce que vous avez le corps qui se redresse, qui se contorsionne et tout. Enfin, c'est très joli à voir, un corps qui brûle. C'est comme une feuille de papier, hein. Ça tourne dans tous les sens. Et donc, là, quand la personne est complètement cramée, elle n'est pas complètement cramée au bout de 2 heures. Ce qui fait qu'on met les os qui n'ont pas brûlé dans un broyeur. Vous savez, comme lorsque vous broyez les grains de café pour vous faire du café. Voilà, donc vous avez le fémur qui passe là-dedans et qui, bon, voilà. Et puis les dents, ça pète la machine, donc ils font attention de ne pas mettre les dents. Voilà, vous n'avez pas les dents, parce que quand vous êtes au jardin du souvenir, vous êtes floup, 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 et vous avez, oh, la molaire de grand-mère, non ? Ça le fait pas. Alors, si vous avez vraiment un crématorium très exigeant et qui vous font payer au maximum, même les dents seront broyées. Vous pouvez le demander. On ne veut pas garder les dents. On ne voudrait pas que vous les jetiez. Vous pouvez les broyer. Ah oui, mais c'est quand même... à ce moment-là, ce sont des rouages en diamant. En diamant artificiel, hein, mais en diamant quand même. Enfin, bon, c'est horrible. J'en rajoute, mais c'est pour vous dissuader de vous faire... cramé. Et donc, par respect pour la résurrection des corps, on enterre le corps tel quel. Oui.
Le pape Jean-Paul
reliques étaient canonisées, on pourrait exhumer le corps et on va distribuer à ceux qui le demandent des reliques.
Tout à fait. Il y a un prélèvement, mais comme il y avait eu, par exemple, on a du sang de Jean-Paul II, à cause des soins qu'il y a eu. Mais il faut continuer la messe elle-même. Kyrie eleison, c'est du grec, Seigneur ayez pitié, Seigneur ayez pitié, Seigneur ayez pitié, trois fois pour le Père, en évoquant la Trinité, trois fois pour le Fils, Christe eleison, c'est latin et grec, hein. Christe c'est du latin, eleison c'est du grec, ayez pitié de nous, eleison, son c'est nous, et Kyrie eleison pour le Saint-Esprit. Le gloire à Dieu est pris de la prière des anges à la nativité et complétée par l'Église. Oui. Oui. C'est faux. Non. Mais par contre, normalement, la messe, c'est à partir de l'offertoire. Ici, on n'est que dans la préparation de la messe. Hein. Ce qu'on appelle la messe des catéchumènes. Ceux qui n'étaient pas encore baptisés pouvaient assister à ce début des prières. Oui, mais normalement, un chrétien a habituellement la contrition. Et de l'offertoire à la consécration, vous avez le temps de faire des prières de regret. Mais on va le voir, justement. Gloire à Dieu. Eh bien, ça ne fait pas partie de la messe elle-même. C'est la messe des catéchumènes. Mais c'est une très très belle prière. Hein. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Alors, on a traduit aux hommes qui l'aiment dans la messe en français, mais c'est pas la prière originelle. Nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous adorons. Vous remarquez que là, on respecte les fins de la prière. Oui.
Un souci aussi avec aux hommes qui l'aiment, parce que ça pourrait donner une tentative de traduction de prédestination double avec certains qui l'aiment et d'autres qui ne l'aiment pas.
Éventuellement.
Ça peut poser problème au niveau de...
Oui, 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 mais enfin, c'est... Il faut se tenir à ce que les anges ont dit et ça sera pas mal. Mais d'ailleurs, peut-être que les anges, le latin, et je crois quand même que la prière des anges, c'est aux hommes qui l'aiment, justement.
Mais c'est pas Q apostrophe.
Oui. Aux hommes
qui le aiment.
Hein. Voilà, qui aiment Dieu.
Qui le aime, en fait. C'est pour ça, c'est pas...
D'où la traduction de bonne volonté. Ouais. Voyez, paix sur la terre aux hommes qui aiment Dieu, on dit les anges. Et le latin a traduit de bonae voluntatis. Ce qui peut faire plaisir de nos jours, puisque les hommes de bonne volonté, on dit c'est merveilleux. Tout le monde est sauvé puisque tout le monde est de bonne volonté. Oui, ça c'est pas. Et là, nous avons les intentions de prière. Nous vous louons. Dieu est Dieu. Dieu est beau, Dieu est puissant, Dieu a fait toutes les fleurs, Dieu a fait tous les insectes, Dieu a fait toutes les planètes, les fourmis aussi. Et donc, c'est merveilleux. C'est la prière de Saint François d'Assise. C'est la prière des anges. Hein? Dieu est puissant, Dieu est beau. Mais la belle puissance de Dieu, c'est de faire des esprits qui sont capables d'aimer. C'est pas seulement les fleurs et les fourmis. Nous vous louons, nous vous bénissons, nous disons du bien de vous. Nous vous adorons, nous vous glorifions, nous vous rendons grâce, deuxième intention de la prière, pour votre immense gloire. Là, c'est même pas les grâces qu'il nous a données. Là, on dit, nous sommes heureux de savoir que vous existez, que vous êtes glorieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu. Ça c'est très important, hein, Agnus Dei. On le dit déjà. Le Fils du Père, qui a enlevé les péchés du monde, ayez pitié de nous. Vous qui enlevez les péchés du monde, recevez notre prière. Vous qui êtes assis à la droite du Père, ayez pitié de nous. Car vous êtes seul, vous seul êtes saint. Vous seul êtes Seigneur, vous seul êtes le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Une prière très trinitaire. Hein. mais qui s'adresse aussi beaucoup au Fils. Alors, c'est très beau parce qu'on dit au Fils, vous êtes le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut. Et on ne parle plus du Père, mais parce que le Fils est uni au Père. La distinction de personne en Dieu est très très fine. Hein. Philippe dit, montre-nous le Père et ça nous suffira. Hein, montre-nous le Dieu Tout-Puissant qui a vu Moïse. Enfin, là, ils sont quand même... imaginez que Jésus les a exaucés et dit, ben, vous allez avoir la gloire de mon Père. Là, ils sont là, oh, ils meurent tous. Vous voyez, ah, ça aurait été dommage, vous voyez, pour la suite. Et bien là, Jésus, très pacifiquement, lui dit, qui me voit, voit le Père. Donc l'amour de Dieu qui s'est fait homme, c'est le Père aussi. Vous voyez, la Trinité, elle est complexe parce que on ne sait jamais si on doit dire il y a trois dieux, il y a un seul Dieu, c'est la Trinité. Dieu est amour. Dieu est un Père qui aime un Fils de toute éternité. Et quand saint Augustin a voulu exprimer la Trinité en disant le Père c'est l'intelligence, le Père c'est la substance divine dans son éternité, le Verbe c'est la substance divine qui s'exprime et qui se dit comme l'intelligence s'exprime, et le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la volonté en Dieu, hein, mais vous avez un petit ange qui lui est apparu sur le bord de la plage, là, à Carthage, et il faisait des va-et-vient entre la mer Méditerranée et un trou qu'il avait fait dans le sable, et il prenait donc un petit vase de l'eau, et il n'arrêtait pas de faire des va-et-vient, et là, Saint-Augustin lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis en train de vider la mer pour la mettre dans le trou. Et alors, le Saint-Augustin lui dit, mais tu n'y arriveras jamais. Et le petit garçon lui a dit, eh bien, j'y arriverai avant que vous ayez compris la Trinité. Et il a disparu. Voilà. Donc, c'était un ange. Fin du Gloria, le Seigneur soit avec vous et vous avez ce qu'on appelle la collecte. On appelle ça collecte, mais je vous ai dit que je n'insisterai pas trop sur l'historique. C'est parce que c'est là aussi qu'on apportait, on rassemble toutes les intentions de prière. C'est l'oraison de la messe du jour. Ensuite, vous avez la première lecture qui est tirée ou de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, sauf les évangiles. C'est une prière d'instruction sur l'histoire du salut ou sur l'instruction des apôtres. Alors, saint Paul... On l'a souvent parce qu'il était très enrichi par l'Esprit Saint pour nous expliciter comment on passe de l'annonce du salut au salut, parce qu'il est un juif très très profond, saint Paul, et donc il a une connaissance parfaite de la continuité de la révélation. Et puis vous avez saint Pierre, vous avez saint Jacques. C'est l'épître, qui est la lettre. Ensuite, le graduel. Ça signifie le chant qui était fait sur les marches du temple, ou sur les marches du sanctuaire, ou sur les marches de la tribune d'où l'on chantait, d'où la chorale chantait, d'où les graduels, les gradins. Voyez. L'Alléluia, mais c'est la louange, c'est de l'hébreu, hein, louange à Dieu. Yah dans Alléluia, c'est Yahvé. Et le trait, ici, c'est ce qui, pas ce qui se traîne, n'est-ce pas, mais c'est, comment dire, une des prières tirées des psaumes qui suit ensuite. Une séquence, c'est une prière qui a été ajoutée par un pieux évêque, ou par l'évêque de Rome, ou par un autre évêque, et dans des évêchés comme celui de Paris, vous avez des séquences pour certaines messes, et qui sont appréciées par certains. Voilà. C'est une prière, c'est un poème, une prière poétique. Voilà. Le Saint-Évangile. Donc on est préparé à quoi ? À la consécration. Alors il y a des personnes qui vous disent, mais ça fait partie de la messe. C'est essentiel, sans le pain de la parole, on ne prend pas le pain de Jésus. Bon, c'est pas le pain de Jésus, c'est Jésus, hein, et le pain de la parole, c'est la parole de Dieu, c'est pas du pain. Ça se mange pas. Mais disons que ça se mange au point de vue mystique, d'accord. Et là, le prêtre, avant de proclamer la vie de Jésus et la vie du Sauveur, il dit « Munda cor meum »« Purifiez mon cœur et mes lèvres, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui avait purifié les lèvres du prophète Isaïe par un charbon ardent. Hein » Isaïe se sentait indigne d'annoncer les avertissements de Dieu. Alors vous avez un ange, mystiquement, hein, parce que il a eu en songe cet acte angélique. Mais quand il s'est réveillé, il n'avait pas... Mais en songe, vous avez l'ange qui prend un charbon sur l'autel des encens, où il y avait des charbons et on mettait les grains d'encens dessus. Il prend un charbon et il le passe sur les lèvres d'Isaïe, qui est forcément purifié. Il n'y a pas beaucoup de microbes qui résistent à un charbon ardent. Voilà. Et donc, c'est bien sûr mystique. Qui avait purifié les lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent. Voilà. Afin que par votre miséricordieuse bonté, je puisse proclamer dignement votre saint évangile. Par le Christ notre Seigneur. Et là, on demande la bénédiction de Dieu, ou de l'évêque, ou du prêtre célébrant, si on est diacre. Seigneur, bénissez-moi, ou... révérendissime Père, bénissez-moi, mais c'est à ce moment-là on fait sauter le I, c'est pas dominé, c'est pas Seigneur, c'est domné, c'est un homme qui représente le Seigneur. Le Seigneur soit en mon cœur et sur mes lèvres pour que j'annonce dignement et convenablement son évangile. Le Seigneur soit avec vous et il est l'évangile. Gloria tibi domine pour l'annonce qui est faite. Et après l'évangile, Laos tibi Christe. Et là, le prêtre prend le missel et dit que par la lecture de ces évangiles soient effacées mes fautes. C'est méritoire d'annoncer l'évangile. Voyez ? Nos fautes ici même, de l'avoir entendu même. Ensuite, vous avez le « Je crois en Dieu », qui est la confession de la foi. Et voilà la fin de la messe dite des catéchumènes. Voyez. Et là, vous pouvez arriver. Et vous n'avez pas raté la messe. C'est le regret des péchés et l'instruction, la confession de la foi. Et là, les catéchumènes partaient à ce moment-là. Vous pouvez rater le sermon. Vous pouvez même rater le « Je crois en Dieu », mais alors ça vous fait moins de mérite, moins de sanctification et plus de tiédeur. Alors, à vous de choisir. Et là commence la messe des fidèles. On prépare la victime. C'est ce qu'on appelle l'offertoire. Et là, le prêtre retire le voile qui recouvre le calice. Dans un geste très ancien, puisque c'est le voile du sanctuaire qui s'ouvre pour qu'on accède à la présence de Dieu et qu'on offre la victime sans tache. C'est dommage de ne pas avoir de voile de calice, parce que c'est un très beau geste qui a environ 3400 ans. C'est joli. Le voile du sanctuaire. Bon. Et là, si vous voyez le prêtre retirer le voile à l'autel, vous dites... Ha ! Je fais ma messe. Voilà. Ce qui est impie, mais ce qui est possible, si c'est pas de votre faute. Quand on vient après l'offertoire, normalement on doit assister à une autre messe qui inclut l'offertoire. Voyez. Alors ça serait vraiment du vice d'attendre la deuxième messe et de ne venir qu'au credo. J'ai raté l'offertoire qui a duré 3-5 minutes. Et rien que pour ça, j'ai manqué la profonde prière de la messe. Mais je ne veux toujours pas entendre le sermon. Je ne veux toujours pas entendre la Sainte Écriture. Car je sais tout, je suis un grand théologien et j'en ai pas besoin. Présomptueux, présomptueux. La messe commence. Messe des fidèles. L'offertoire. Le prêtre retire le voile. prend les offrandes et c'est le repas pascal qui commence. Il prend le pain et il prend le vin. Et avant de le consacrer, il l'offre comme les prêtres l'ont toujours offert. Avant de tuer l'agneau, avant de tuer le bœuf, avant de tuer les petits tourtereaux, avant d'offrir, avant de brûler du blé, avant de brûler de la farine, avant de brûler de l'huile, le prêtre faisait un acte d'offrande. Il élevait la victime vers Dieu. Donc quand un prêtre fait ça, ça fait des milliers d'années, et même du temps d'Abraham, avant d'offrir un animal, on le levait. Et même dans des religions païennes, on lève la victime. Hein, un bébé, oh. Avant de le jeter, bam, dans la statue incandescente de Baal. Vous voyez. Et vous avez